Bonjour à tous. Donc, je vais tout d'abord un petit peu présenter la façon dont on travaille dans mon équipe. Donc, moi, je fais partie d'une équipe qui est une équipe de recherche qui s'appelle Polaris. Et Polaris, ça veut dire performance et optimisation des grandes infrastructures et systèmes. Et donc, c'est une équipe de recherche qui est composée de chercheurs et d'enseignants-chercheurs à l'université. Et donc, on s'intéresse à essayer de calculer les performances et d'optimiser les performances des grands systèmes, que ce soit des grands systèmes informatiques ou plus généralement des systèmes construits par l'homme. Mais aujourd'hui, je vais vous faire un exposé sur les principes de base qui ne sont pas des principes nouveaux, qui datent des années 50, des années 60, mais qui ne sont pas forcément connus. Les principes d'optimisation des systèmes dynamiques. Et des choses un peu plus récentes, enfin d'exposer sur comment ça se traduit en théorie des jeux. Et donc le principe général, je ne sais pas si vous connaissez le mot, c'est programmation dynamique. Je ne sais pas si vous connaissez la programmation dynamique ou pas. Non, pas du tout. Bon, parce que c'est un terme connu. Et donc ça s'appelle programmation dynamique, justement. Vous connaissez la programmation linéaire, par exemple? Programmation linéaire? Non.
Moi, je ne connais pas ce mot, en tout cas, programmation linéaire.
D'accord, mais bon, c'est un mot consacré, ça dit un objet bien précis. Donc, la programmation linéaire, c'est une façon d'écrire de l'optimisation pour des systèmes qui ont des contraintes linéaires et des coûts linéaires. Et la programmation dynamique, ça s'appelle comme ça, parce que la plupart des gens la connaissent pour calculer le plus court chemin dans les graphes, par exemple. Pourquoi ça s'appelle programmation dynamique? Parce que justement, ça a été inventé pour s'occuper des systèmes dynamiques. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui. Alors, l'optimisation, bon, vous connaissez quand même un peu l'optimisation. L'optimisation, c'est trouver le maximum ou le minimum, par exemple, de fonctions. Et donc, l'optimisation classique, c'est ça. Vous avez une fonction, peut-être que vous avez des contraintes sur le domaine dans lequel vous voulez l'optimiser, et puis vous voulez trouver l'optimal. Donc là, il y a des techniques très générales qui existent. Si la fonction est dérivable, vous pouvez la dériver. Sinon, elle est un peu plus dans la dimension grande, vous connaissez peut-être la méthode de descente des gradients. Donc on part d'un point de la fonction et on suit la plus grande pente. Si elle est convexe, on va finir par tomber sur un minimum de la fonction. Et le recuit simulé, je ne sais pas si vous connaissez le mot, c'est un mot consacré aussi, c'est une méthode de descente de gradient probabiliste. C'est pour trouver les minimums des fonctions qui ont plusieurs minima locaux. Donc en faisant la descente des gradients, on va converger vers un minimum local de la fonction. Et en ajoutant des sauts probabilistes, ça va permettre de sauter des minimums locaux pour finir dans le minimum global. Mais ça, ce sont des méthodes d'optimisation classique, je ne vais pas en parler. Moi, ce que je vais essayer de vous expliquer un petit peu, c'est la différence avec l'optimisation classique, l'optimisation dynamique. Vous avez un système dynamique, donc un système qui évolue au cours du temps, et vous voulez optimiser le système en cours d'évolution. Donc vous voulez essayer d'optimiser son comportement au cours du temps. Donc c'est un objet qui évolue au cours du temps. C'est ça qui est important. Alors c'est très différent. Vous allez voir, l'exemple que je vais vous montrer justement montre à quel point il y a une différence essentielle entre l'optimisation statique et l'optimisation dynamique. Alors évidemment, il y a des questions nouvelles, des problèmes nouveaux qui se posent. Quand vous avez un système dynamique et vous voulez l'optimiser, vous agissez sur le système, vous prenez des décisions. À quel moment est-ce que vous prenez les décisions? Comme le temps est important, puisque le système évolue au cours du temps, on pose la question, quand est-ce que j'agis sur le système? Une deuxième question très importante, c'est quelle est l'information dont je dispose au moment où j'agis? Est-ce que je connais l'état du système, sa position dans l'espace par exemple? Est-ce que toute l'information sur le système? Et puis, un dernier point important, comme il y a le temps, il y a le futur. Et souvent, le futur est incertain. On ne connaît pas forcément le comportement futur du système. Et donc, comment est-ce qu'on va essayer de contrôler un système pour lequel on ne connaît pas l'évolution future, ou bien on n'en a qu'une connaissance partielle. Alors ça, ce sont les difficultés supplémentaires, mais on a aussi des solutions nouvelles qui s'offrent à nous dans les systèmes dynamiques. Par exemple, on peut se dire, je peux prendre mon temps avant de commencer à agir. Je me dis, oui, je vois le système, je le laisse agir, je le laisse évoluer un moment avant de commencer à prendre des décisions dessus. Donc je peux prendre mon temps. Je peux aussi essayer plusieurs solutions au cours du temps et puis sélectionner la meilleure en laissant le système évoluer assez longtemps. Et puis enfin, c'est le point le plus important probablement, c'est qu'on peut réagir en direct, en temps réel, si vous voulez, si le système se comporte de façon inattendue. Alors tout ça, c'est des mots un petit peu vagues. J'ai mis là exprès pour vous donner des idées générales, mais dans mon exposé, je vais faire que des exemples très simples pour vous donner des idées des choses. Alors, le premier exemple simple que je vais regarder, c'est les joueurs d'échecs. Un exemple très simple. Il y a deux joueurs d'échecs, B et C, qui jouent souvent aux échecs. C'est une espèce de petit problème, si vous voulez. B joue souvent aux échecs contre C. D'accord ? On peut voir par exemple C comme un programme d'ordinateur, mais ça peut être aussi un adversaire, si vous voulez. Donc B a deux façons de jouer aux échecs. Il joue soit agressif, il joue l'attaque, ou bien il joue la défense. Il a deux stratégies de jeu. Quand il joue l'attaque, il perd 55% des parties et il gagne 45% des parties. Il a joué souvent contre C et il sait que quand il joue l'attaque, voilà ce qui se passe. Il va gagner 55% des fois. Vous comprenez ce que ça veut dire, ça? Ou bien il peut jouer la défense. Quand il joue la défense, cette fois-ci, il perd 15% des parties, il fait patte 75% des parties et il gagne 10% des parties. Donc on a quand même l'impression, là, quand on regarde que B est un moins bon joueur d'échecs que C. Okay? Puisque quand il joue l'attaque ou la défense, en tous les cas, eh bien, il a tendance plutôt à plus perdre qu'à gagner. D'accord ? Pour autant, B est assez audacieux et il lance un défi à C et il lui lance un défi sur une rencontre en deux parties. Il dit voilà, je lance un défi en deux parties. Celui qui gagne le plus de parties au bout de deux parties gagne une grande somme d'argent et l'autre perd. Et c'est ouvert au pari sportif. Alors, est-ce que vous pariez sur B ? C'est ça la question. Alors là, vous avez le droit de parler. Dites-moi, est-ce que vous pariez sur B ? Alors, je vais vous donner qu'un... Alors, il y a un indice à vous donner. Mon prénom est Bruno. Maintenant, est-ce que vous pariez sur B ? Alors, on n'a pas envie de parier sur B. Pourquoi on n'a pas envie de parier sur B ? Parce que les stratégies attaque-attaque, attaque-défense, défense-défense, défense-attaque, ces quatre stratégies-là sont toutes perdantes. Je me suis amusé à calculer les probabilités, les espérances de gain sont moins 10%, moins 11%, moins 8%. Pour les trois, bon, parce que AD et DA, c'est pareil. Hein. Donc ça fait que... Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que j'ai exploré, là, en regardant AA, AD, DD, DA, toutes les stratégies possibles du joueur B? Non, ça, c'est les stratégies qu'il joue. Il joue attaque ou défense, d'accord? Ça, c'est le résultat de la partie une fois que j'ai joué attaque ou défense.
Oui, mais justement, là, en jouant défense, il y a forte chance d'avoir une partie nulle, et la partie nulle, c'est une partie où personne ne gagne.
Oui, c'est pour ça que les espérances de gain, je les ai calculées ici, hein. C'est les espérances de gain des quatre stratégies. Elles sont toutes négatives.
Alors, il peut peut-être changer de stratégie en cours de partie ?
En cours de partie, non. En cours de partie, on ne peut pas.
La première partie,
la stratégie, elle a... Mais toi, tu te tais.
Je suis un joueur d'échecs.
Ah oui, la stratégie que B va faire, c'est que en fonction du résultat de la première partie, il va adapter sa stratégie à la deuxième partie. Et il va faire ce que font toutes les équipes de foot italiennes, il va jouer le catenaccio. Est-ce que vous connaissez le catenaccio italien en foot ? Vous n'êtes pas des footeux. Hein. Le catenaccio, c'est ça. Je joue agressif la première partie. Et si jamais j'ai la chance d'avoir marqué un but, alors là, on défense. On verrouille la... Catenaccio, c'est le verrou. Donc on verrouille la défense. C'est une stratégie tout à fait logique. Et d'ailleurs, si les footballeurs italiens l'utilisent, c'est parce que ça a été montré par des... Ils ont fait appel à des chercheurs qui leur ont dit que si on est la plus mauvaise équipe, c'est comme ça qu'il faut jouer. Et là, c'est le cas. Le B est la plus mauvaise équipe. Il va faire ça. Et vous allez voir que, tout d'un coup, son espérance de gain est positive. S'il fait ça, eh bien, il a plus de chances de gagner que son adversaire. C'est incroyable. On va faire des calculs ensemble pour vous en convaincre. Donc la stratégie, donc la différence entre l'optimisation statique et dynamique, c'est en dynamique, je change ma stratégie en fonction de ce qui s'est passé à l'étape courante. C'est un des premiers principes. Je l'illustre ici. Alors regardons les calculs, mes calculs sont tout simples, hein, il n'y a rien de mystérieux. Donc allons-y, quand c'est que j'ai gagné ? J'ai gagné si j'ai fait victoire-victoire, j'ai gagné les deux parties, ou bien si j'ai gagné la première, il fait nul dans la deuxième. Là, c'est un résultat positif pour moi, j'ai gagné. Donc quelle est la probabilité de ça ? Alors, Première partie, j'ai gagné avec. Je joue gagné, donc j'ai gagné la première, donc c'est 0,45. Et puis la deuxième, c'est soit j'ai gagné 0,10, soit j'ai fait match nul 0,75. Et donc ça fait une probabilité de gain de 0,38. Donc match nul, pour faire match nul, c'est soit j'ai gagné perdu, soit j'ai perdu gagné. Parce que si je fais match nul, au deuxième coup, je réattaque. Et quand j'attaque, il n'y a pas de match nul. Quand j'attaque, c'est soit je perds, soit je gagne. Vous avez vu, il n'y a pas de match nul en cas d'attaque. Donc match nul, c'est j'ai gagné la première et j'ai perdu la deuxième, ou bien j'ai perdu gagné. Donc ça donne ces résultats-là. Et puis la défaite, c'est quand j'ai perdu perdu. J'ai perdu mes deux parties, c'est la seule façon de perdre en fait. Et donc dans ce cas-là, ça fait 0,55 fois 0,55, 0,30. Je commence attaque, donc la première partie, je ne peux pas faire nul. D'accord ? Et donc vous voyez que ben, j'ai une espérance de gain de 8%. Donc si vous placez de l'argent dans ce pari, vous avez une espérance de gain de 8% de votre somme misée initialement. C'est mieux que le livret A. C'est un peu risqué là.
Par contre, ce gain de 8% de...
Parce que c'est l'espérance de gain. Donc je gagne plus 1 dans ce cas-là, je perds 1 dans ce cas-là.
D'accord.
Et là, je retrouve ma somme. Je retrouve la somme que j'ai perdue.
Mais l'espérance de gain, c'est...
1 fois ça, plus 0 fois ça, moins 1 fois ça.
Okay.
D'accord. Donc là, ça fait 0,08. Ok. Bon, ben, vous avez vu, un des principes de la dynamique, c'est ça, c'est qu'on adapte notre stratégie en cours du temps et ça permet de faire des choses qui étaient impossibles à faire de façon statique. Ça, c'est le premier principe. Deuxième principe, je vais vous le montrer tout de suite, c'est avec notre deuxième exemple, la roue de la fortune. Roue de la fortune, voilà, c'est un jeu dans lequel vous avez une roue avec des crans et vous avez 10 slots sur la roue, enfin 10 quartiers sur la roue. Et sur un des quartiers, votre gain est affiché là de 1 à 10. Vous avez 10 quartiers et les gains sont de 1 à 10. Et vous avez 4 essais. Mais quand vous arrêtez, vous arrêtez. Donc vous lancez la roue une première fois, vous décidez j'arrête ou je continue. Si vous arrêtez, vous gagnez la somme qui est affichée par la roue à l'instant où vous êtes arrêté. Et vous avez 4 essais. Alors qu'est-ce que vous faites? Quelle est votre stratégie optimale? Et comment on la calcule? Vous avez compris le principe?
On ne gagne que le dernier montant. En fait, si on joue 4 fois, on gagne la somme, la quatrième fois.
Ah oui.
Voilà,
quand on gagne la somme qu'on arrête, quand on s'arrête.
Il faut que l'espérance sur le nombre de parties restantes soit supérieure au gain obtenu.
C'est pas mal.
Moi, je pense qu'il faut s'arrêter dès qu'on a gagné.
Ah ben, on gagne à tous les coups. On gagne à tous les coups.
Si on obtient 10 la première fois,
bon, c'est sûr. On ne peut pas bien espérer mieux de 10. Donc si on a un 10 à un moment donné, on arrête, c'est clair. Non mais, vous tirez la première fois, vous avez 7. Qu'est-ce que vous faites?
Est-ce que je peux espérer avoir... ma probabilité d'avoir plus de...
Mais comment on fait pour le calculer, ça?
Est-ce que ça... 7, il est tiré sur la première fois ou sur la dernière?
Ah, ben bien sûr. Mais la première fois. Vous tirez la roue la première fois, vous avez 7.
En fait, on a la même chance de retirer un 7 que de retirer un
0. Ah oui, là, c'est uniforme. Les probabilités sont uniformes à chaque fois. À chaque fois que je tire la roue, les probabilités, c'est un dixième pour chaque quartier.
Il faut s'arrêter si on a 6.
Il faut le surmartingale.
Alors... En fait, il y a une façon simple de calculer le résultat. Et cette façon simple, c'est le deuxième principe de l'optimisation dynamique, c'est la récurrence arrière. Donc il faut faire une récurrence en arrière. Et c'est ça qui est un petit peu différent, en arrière. Il faut remonter le temps plutôt qu'avancer dans le temps. C'est ça qui est magique. Et vous allez voir comment ça marche, c'est tout simple. Alors, si je veux faire une récurrence en arrière, je regarde ce qui se passe au dernier coup, le tout dernier. Imaginons que j'ai fait mes 4 coups, je regarde le dernier coup. Ben, le dernier coup, voilà, j'ai tout affiché d'un coup, mais lisez que la première ligne. Dernier coup, c'est simple, mon gain moyen, c'est 5,5. Parce que je ne pourrais rien faire, de toute façon, si je suis au dernier coup, je lance la roue, je vais avoir un gain soit 1, soit 2, soit 10. En moyenne, je vais gagner 5,5. Ça, c'est le dernier coup. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire du coup à l'avant-dernier coup? À l'avant-dernier coup, eh bien... C'est simple. La stratégie optimale, elle est simple. Je lance ma roue une première fois. Si j'ai plus de 5,5, je m'arrête. Et si j'ai moins de 5,5, je continue. C'est simple, je sais, parce qu'au coup d'après, mon gain, ce sera 5,5. Donc au coup d'avant, je dis, Voilà ma stratégie. OK ? Alors, calculons le gain de deux coups. Alors, comment on calcule ce gain ? Donc, avec probabilité 1,5, je suis tombé au-delà de 5. Donc, j'ai fait 6, 7, 8, 9 ou 10. Dans ce cas, mon gain moyen, c'est 8,5. D'accord ? Avec probabilité 1,5, mon gain sera 8,5. Et avec probabilité 1,5, je suis tombé en dessous de 5. Je suis tombé sur 1, 2, 3 ou 4 ou 5. Dans ce cas-là, mon gain, ça sera 5,5. Parce que je vais retirer dans ce cas-là. Donc, mon gain moyen en deux coups, c'est 1,5 fois 5,5 plus 1,5 fois 8,5. Et ça, ça fait 6,75. Donc, le gain après les deux derniers coups, c'est 6,75. Donc, maintenant, pour le troisième essai depuis la fin, eh bien, ma stratégie optimale est simple. Je m'arrête si je suis au-dessus de 6,75. Donc, si j'ai ou 7, ou 8, ou 9, ou 10, je m'arrête. En dessous, je relance une deuxième fois. Donc, mon gain moyen, cette fois-ci, ça sera, je l'ai écrit ici, ça fait 7,45. Pour vraiment refaire les calculs. Et finalement, 4 essais. Si j'ai 4 essais, eh bien, ma stratégie, c'est s'arrêter si mon gain est strictement plus grand que 7,45. Donc, je m'arrête au premier coup que si j'ai un 8, un 9 ou un 10. Si j'ai un 7, je relance la roue. Et le gain moyen que j'obtiens en 4 coups, c'est 7,915. Donc ça, c'est le deuxième principe de la programmation dynamique. Je vous l'ai écrit ici. C'est on fait une récurrence remontant le temps. Et le premier principe, c'est on adapte les résultats. Évidemment, vous voyez ici, on adapte ma stratégie aux résultats obtenus. Alors, je vais faire un tout petit peu le modèle mathématique pour donner un peu de sens et vous présenter l'équation de la programmation dynamique. Alors, vous imaginez maintenant, on joue plus aux échecs, on ne joue plus à la roue de la fortune, on a un problème très général. Très général avec un espace d'état X. Alors ici, l'espace d'état, pour la roue de la fortune, c'est de 1 à 10. C'est le résultat possible de la roue. D'accord ? Pour les échecs, les résultats, c'est gagné ou perdu. D'accord ? Pour chaque partie. Donc ça, c'est l'état pour chaque instant. Chaque instant, l'état, c'est le gain de la roue ou le gain de la partie. Les actions qu'on peut choisir, eh bien, dans le cas des échecs, c'est soit je joue l'attaque, soit je joue la défense. Pour la roue, c'est soit je continue, soit j'arrête. C'est ça les actions que je prends au cours du jeu. Et puis, les choses importantes, c'est ce qui est en rouge. C'est ce qu'on définit. Donc, on définit ma stratégie. Donc, comme je vous ai dit, c'est ça qui est important. La stratégie, ce n'est pas une suite d'actions. La stratégie, c'est une fonction qui a un état donné associé à une action. Parce que justement, je vais adapter mon action à l'état. Donc, c'est là, l'adaptation de ma stratégie à l'état, elle est ici. En définissant pas une suite d'actions, mais en définissant plutôt une fonction qui a l'état associé à une action. C'est ça qui est la richesse de la optimisation dynamique. Ensuite, bon, ben, j'ai une fonction de gain. Donc, quand j'ai de l'état X, j'ai un gain G. G, c'est pour gain. J'ai une fonction de transition. Donc, la fonction de transition, elle me dit que c'est une matrice de probabilité ici. Elle me dit que je suis dans l'état X et je joue l'action A. Au coup d'après, je suis dans l'état Y avec probabilité P de X à Y. D'accord ? Ça, c'est la probabilité du prochain coup. Donc, pour la roue, c'est avec probabilité 1,5, je suis en 1. Avec probabilité 1 dixième, je suis en 1. 1 dixième, je suis en 2. 1 dixième, je suis en 3, etc. Au coup d'après, ça c'est les probabilités de transition. Et puis on regarde sur un horizon, un nombre de coups si vous voulez, un nombre de pas de temps. Là je vais le noter N, mais par là-dessus je vais le noter grand T, donc plutôt grand T si vous voulez. Et donc le but du contrôleur, c'est de choisir la fonction pi optimale pour maximiser la somme des gains à chaque étape de temps. Et devant, j'ai mis une espérance. Le gain moyen. Donc, je vais essayer d'optimiser le gain moyen obtenu au cours du temps. OK ?
La stratégie, elle prend compte que l'état courant et pas l'antériorité.
Alors, c'est une très bonne question. On peut montrer que, en fait, à toute généralité, il faudrait une stratégie qui prend en compte tout le passé. Parce que, a priori, pourquoi pas ? On peut montrer qu'il existe une stratégie optimale dans la sous-ensemble des stratégies qu'on appelle markovienne, donc qui ne prennent en compte l'état que l'état courant. Et ça, c'est parce que les transitions d'état ici sont markoviennes. Donc à cause de ça, à cause du fait qu'on passe de l'état Y uniquement grâce au fait d'être à l'état X, on peut montrer qu'il suffit de regarder des stratégies qui prennent en compte que l'état courant. Mais a priori, c'est vrai, on pourra en prendre... Ce n'est pas la peine d'aller regarder des stratégies... On ne fera pas mieux avec des stratégies plus compliquées. C'est un théorème assez facile à montrer. Mais qu'il est important de montrer. Tout le monde comprend, là, je peux tourner. Non, maintenant, on va essayer de voir comment on peut calculer ce J, là. J de X. Alors, j'ai oublié de dire, ce qui est important, c'est le petit X, là. Dans ce problème-là, les notations sont ultra importantes. Quand on a bien compris comment noter les choses, ça devient simple. Donc, le X qui est là, c'est l'état initial. Donc, J de X, c'est le coût de la stratégie pi en partant à l'instant 0 de X et en faisant grand T étape. Et donc, justement, je vais noter, je vais introduire une nouvelle notation. Je vais noter J indice petit t de X. Donc, c'est là que je vais ma récurrence arrière. Donc, J petit t de X, c'est le gain que j'obtiens entre l'instant petit t et l'instant grand T. Donc, c'est là que je vais remonter le temps. D'accord ? Ça, c'est je pars de T, je ne pars pas de 0, et je vais jusqu'à grand T. Et au coup d'avant, et au coup d'après, je partirai de T moins 1. D'accord ? Ça, c'est J, c'est la définition de JT de X. Bon, par définition, JT de X, c'est ça. Hein. C'est la somme de U égale petit T jusqu'à grand T des G. Bon, c'est la définition. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir le premier terme. Le premier terme, c'est lui, je le sors de la somme. Lui, il n'y a pas d'espérance parce que le X, il est connu au départ. X indice petit t, c'est petit x, par définition. Donc le premier terme, il est connu et je peux le sortir de la somme. Et il me reste donc le reste, c'est-à-dire la somme de t plus 1 jusqu'à grand T dg. Et donc ce que j'aimerais faire apparaître ici, là, c'est J indice t plus 1 pour avoir une équation de récurrence. Donc j'aimerais remplacer ça, là, par J indice t plus 1. Ben, il suffit de faire. Mais en quel point? Il y a une espérance devant. Alors je l'ai écrit. Eh bien, je fais apparaître JT plus 1 de Y pour tout Y. Je fais la somme sur tous les Y possibles et la probabilité que depuis X, en prenant l'action pi de X, je tombe dans Y fois J de Y. Voilà, c'est ça. Ça, c'est l'équation de programmation dynamique, la récurrence arrière. Donc, si je connais mon JT plus 1 pour tout Y, je pourrais calculer mon JT pour tout X. Et je remonte le temps comme ça jusqu'à l'instant 0. Cette équation, elle a été découverte par Bellman. Ça s'appelle. Non, c'est pas ça, la suivante. Ça, c'est pour une politique pi donnée. Et maintenant, si je prends la politique pi optimale, donc je prends le sup sur toutes les politiques pi possibles des jpi, et j'appelle ça j étoile. En optimisation, étoile, ça veut dire optimale tout le temps. Eh bien, j étoile satisfait une équation qui est exactement la même que la précédente, sauf que à la place de prendre l'action de la politique pi, je prends l'action maximale, la meilleure action possible. Cette équation, ça s'appelle l'équation d'optimalité de Bellman, et c'est l'équation de la programmation dynamique. La première qui a été écrite, c'est celle-là. 1950 à peu près, 57. Et donc, calculer J, ça devient ultra simple. Au départ, je définis à la fin des temps J de façon arbitraire, où il y a peut-être un coût final ou je ne sais pas quoi. Donc là, j'ai posé J de T égale 0. Et puis, je fais une boucle qui remonte le temps depuis T moins 1 jusqu'à 0 de cette équation, quoi. Je connais ça, je les ai tous calculés, ceux-là. Je calcule les précédents. Bellman Optimality Equation. The Bellman Optimality Equation. Je l'ai écrit en anglais là, donc je m'excuse parce que là j'ai marqué E au B et là j'ai marqué B au E parce que c'est l'habitude. Vous ne connaissez pas la fonction argmax? C'est l'argument du max. Ça veut dire que c'est quel est le A qui obtient l'optimum, le maximum. Okay. Ça, c'est pour le calcul de la politique. Ça, c'est le coût optimal. Ça, c'est la politique optimale. La politique optimale, c'est quel est le A qui optimise la fonction précédente.
La remarque précédente, c'est une sorte de notation.
C'est juste une notation pour dire je choisis le A qui atteint le sup ici, et c'est celui-là que je définis comme étant pi de x. Bon, ben voilà, ça c'est un truc magique, et c'est comme ça qu'on a résolu, un peu de façon ad hoc, mais la roue de la fortune. On a fait exactement comme ça. Après, on peut raffiner. On peut se dire, par exemple, on a un système qui ne vit pas pendant un temps t fini. Alors, il y a beaucoup de systèmes qui vivent pendant un temps infini. Par exemple, je ne sais pas, vous voulez remplacer le moteur de votre voiture. Quel est le meilleur moment de remplacer la courroie de transmission de votre voiture? Alors, évidemment, si vous la remplacez trop tôt, vous allez payer une courroie pour rien. Mais si vous ne la remplacez pas, vous allez tomber en panne et le prix sera bien multiplié par 4. Et ça, c'est un problème d'optimisation en temps infini, parce qu'on ne sait pas à quel moment il faut s'arrêter de prendre des décisions. Donc, c'est un problème qui est comme ça. Donc, le coût, cette fois-ci, ce n'est pas entre 0 et grand T, c'est entre 0 et plus l'infini. Alors, quand on fait un coût entre 0 et plus l'infini, le problème, c'est que si je fais la somme des gains entre 0 et plus l'infini, j'obtiens plus l'infini. Optimiser plus l'infini, ça sera difficile. Du coup, ce qu'on fait, par facilité mathématique, mais aussi parce que ça a du sens dans la vraie vie, on met un facteur d'actualisation. Donc on multiplie par un facteur lambda puissance t, là, où ce lambda puissance t, c'est lambda est plus petit que 1, de façon à ce que cette somme soit finie dès que les gains immédiats à chaque coup sont bornés. Donc, alors le lambda, on peut voir ça un petit peu comme l'inflation, si vous voulez. C'est comme si je vous disais 1 euro aujourd'hui, ou 1 euro dans 2000 ans, lequel vous préférez? Vous préférez gagner 1 euro tout de suite ou 1 euro dans 2000 ans? Ben, on préfère gagner 1 euro tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il y a un lambda puissance t devant là. Donc le lambda puissance t peut rendre compte d'une actualisation financière, mais aussi ça a une facilité mathématique. Donc des fois on veut aussi s'en débarrasser. Mais là je l'ai mis pour simplifier. Et donc là, c'est pareil. Donc je ne vous écris pas, je vous montre pas parce que je veux passer à la suite, mais on fait exactement pareil. On utilise une fonction comme il faut, avec une bonne notation, et on obtient tout de suite, ou assez vite, l'équation qui est ici. C'est la même équation que tout à l'heure, sauf que cette fois-ci, là, qu'est-ce que vous remarquez la différence? C'est qu'il n'y a pas j indice t, parce que c'est un coin infini. Donc c'est cette équation, on remplace une équation de programmation dynamique par une équation au point fixe. Donc vous voyez que la fonction j étoile, ici, est le point fixe de l'opérateur qui est écrit là. Et donc là, on passe tout de suite à une chose moins informatique, un peu plus mathématique. C'est-à-dire qu'il faut introduire la notion d'opérateur. On a un opérateur qui agit sur une fonction j étoile. Et la fonction j étoile, c'est le point fixe de cet opérateur. Et donc voilà, j'introduis ici l'opérateur t, qui prend, alors si l'espace d'état est x, qui prend les fonctions, qui va dans les fonctions, et qui a une fonction j, lui associe celle-là. Et si je trouve le point fixe de t, alors j'ai obtenu le coût optimal de ma politique. Alors comment cette fois-ci on calcule ce j étoile? Eh bien, quand vous voulez calculer un point fixe d'un opérateur, qu'est-ce que vous faites? Vous partez d'un point arbitraire et vous itérez. Et si cet opérateur est contractant, c'est le cas ici, on peut montrer assez facilement que l'opérateur t est contractant, eh bien, en itérant, en faisant j de point égal tj à chaque, assez souvent, au bout d'un moment, on va converger vers un point, et ce point, ce sera l'unique point fixe de l'opérateur j. Il y a une stratégie, il y a un deuxième algorithme qui est beaucoup plus performant, et je vais vous en parler parce qu'il est un peu plus malin. Alors, comment il marche? Oui, d'ailleurs, on peut montrer que le taux de contraction de l'opérateur t, c'est lambda, le fameux lambda que j'ai introduit là. Et donc, si vous voulez, la vitesse de convergence, elle est exponentielle à lambda ici, la vitesse de convergence. Donc, si lambda est assez proche de 1, finalement, ça ne converge pas si vite. Et celui-ci, là, voilà comment ça marche. Au lieu d'itérer sur J, cette fois-ci, je vais itérer sur une politique. Je vais calculer, je vais choisir au départ une politique pi arbitraire. Donc, je choisis des actions arbitraires à chaque instant. Et puis, je vais calculer le coût de la politique en question. Ça, c'est facile, hein, parce que c'est un opérateur linéaire. Donc, je calcule le coût de la politique pi. Et puis ensuite, j'invente une autre politique que j'appelais aussi pi ici dans le programme, hein, mais que j'aurais pu appeler pi prime, disons, qui est celle qui maximise le coût tj. Cette politique, elle est meilleure que la politique précédente. Et donc après, je recommence avec cette politique-là. Donc ça s'appelle itération des stratégies ou des politiques plutôt qu'itération sur les valeurs. Donc là, il y a encore un mystère aujourd'hui, vous voyez quand je vous en parle. Les premiers Bellman, jusqu'en années 90, les gens pensaient que dans le pire cas, ici, il fallait itérer un nombre de fois exponentiel en fonction du nombre d'états du système, avant d'avoir, dans le pire cas, avant d'avoir la politique pi optimale. Dans les années 2000, les chercheurs ont démontré qu'en fait, non, ce n'était pas exponentiel en x, c'était linéaire en x, la complexité. Donc c'était incroyable. Les gens, ils ont toujours pensé que c'était exponentiel, alors qu'en réalité, ce n'est même pas quadratique ou linéaire. Dans le pire cas, ça prend un nombre linéaire d'étapes avant de converger. Et puis, il y a la pratique. Donc moi, avec un de mes étudiants, on s'est dit, on va prendre des problèmes au hasard et on applique dessus l'itération des stratégies. Et on voit combien de temps ça prend pour converger. 5. Théorème, l'itération des stratégies converge en 5 étapes, quel que soit le problème que vous regardez. Et ça, c'est presque vrai. C'est incroyable, ça converge ultra vite. En 5 coups, ça converge. Et je ne connais aucun problème, sauf des problèmes qu'on a fabriqués exprès pour faire échouer le programme, qui ne convergent pas en 5 coups. Donc c'est une conjecture ouverte aujourd'hui. Est-ce que la complexité moyenne d'itération des stratégies est croissante à la taille de l'espace d'état ou constante? On ne sait pas. Personne ne sait aujourd'hui. En tout cas, les expériences numériques montrent que c'est difficile de passer à 6. On a fait des 100 millions de cas différents. On n'a jamais eu un 6 qui est apparu. On n'a jamais eu 6, on n'a que des 5. Et on n'a pas eu non plus des 3. C'est soit 4, soit 5, tout le temps. C'est assez miraculeux. Ceci dit, ce miracle n'a pas quand même vraiment lieu. Et je vous explique pourquoi maintenant, là. Parce qu'en réalité, quand même, parce que le nombre d'itérations ici, hein, ça cache quand même qu'à un moment donné, il faut résoudre J égale TJ, là. Donc là, dans l'espace d'état, il intervient quand même. Donc là, c'est juste le nombre de répétitions qui est constant. Parce que la complexité de l'algorithme, elle ne dépend pas que du nombre de répétitions, puisqu'il y a aussi un problème, là, il y a un programme linéaire, une équation linéaire à résoudre qui prend taille de l'espace d'état au cube, disons, parce qu'il faut inverser une matrice. Donc ça, c'est coûteux. L'espace d'état, il grossit très vite. C'est ça le problème. C'est quand vous avez un problème quelconque, l'espace d'état auquel vous allez être confronté grossit très vite. Très très vite, beaucoup plus vite qu'on ne peut imaginer. Et donc ça, c'est le gros problème de cette approche. Elle résout tous les problèmes, mais ça lui prend beaucoup de temps. Donc je vais passer à la deuxième partie que je voulais montrer un petit peu. Je voulais vous introduire un petit peu ce que c'est que les jeux stochastiques. Donc cette fois-ci, vous avez le même problème, un système qui se répète au cours du temps. Mais cette fois-ci, il n'y a pas un seul contrôleur qui prend des actions. Il y a plusieurs acteurs en même temps qui prennent toutes les actions différentes, ou les mêmes. Mais en fait, ils ont chacun leur propre objectif, leur propre fonction objectif. D'accord ? Donc le système se répète au cours du temps, mais il y a plusieurs contrôleurs qui contrôlent tous en même temps le système. Et ça s'appelle un jeu stochastique. Donc je vais vous montrer juste un exemple pour vous montrer que ce qu'on croit être vrai, ce qui est vrai dans les jeux statiques n'est pas vrai dans les jeux répétés. Le jeu stochastique, c'est le dilemme du prisonnier. Bon, vous connaissez tous le jeu du prisonnier, non? Vous ne connaissez pas le jeu du prisonnier? Mais c'est enseigné aux élèves, je crois, désormais, non? Bon, alors je vais vous expliquer. Du coup, ça va me prendre 5 minutes de vous expliquer le jeu du prisonnier. OK. Donc, le jeu du prisonnier, c'est un jeu à deux joueurs. C'est deux personnes qui ont été arrêtées par la police, qui ont commis un délit quelconque. Et donc, ils sont interrogés à part par les policiers. Et donc, ils peuvent avoir deux comportements possibles. Soit ils collaborent entre eux, donc ça veut dire qu'en fait, ils se taisent, ils ne disent rien. Ils collaborent. Soit ils dénoncent leur collègue, en disant c'est lui qui l'a fait. Ils plaident coupable, si vous voulez. Alors, là, ce sont les coûts associés aux différentes stratégies. Donc, voyez ce qui se passe. Donc, si les deux se taisent, d'accord, là, c'est... Le premier prisonnier décide de se taire, le deuxième aussi. Dans ce cas, ils écopent tous les deux de 1 an de prison pour des délits mineurs qu'ils ont commis par ailleurs. Okay? Les chiffres n'ont pas vraiment d'intérêt, hein, c'est juste pour montrer le principe. Soit, moi, je dénonce mon collègue, et lui, il dit rien. Dans ce cas, moi, je sors libre, et lui, il prend 3 ans de prison. Le premier chiffre correspond au coût du premier joueur, le deuxième chiffre correspond au coût du deuxième joueur. D'accord ? Donc là, ça veut dire, si moi, je le dénonce et que lui, il se tait, ben, il va écoper 3 ans de prison et moi, 0. OK ? Et là, évidemment, le jeu est symétrique, donc là, c'est un autre sens. Et puis en revanche, si les deux se dénoncent mutuellement, du coup, ben, la dénonciation n'est pas très utile et ils s'écopent tous les deux de 3 ans, de 2 ans de prison. OK ? Alors pourquoi on appelle ça le dilemme ou le paradoxe du prisonnier ? Parce qu'on regarde quelle est la stratégie que chacun va adopter. Ils sont très malins, les prisonniers. Et donc, moi, disons que je suis le prisonnier numéro 1. Donc, quelle est la stratégie ? Je ne sais pas ce que va faire l'autre, mais quelle est la stratégie que je vais adopter ? Alors, c'est simple, parce que, regardez, si l'autre me dénonce, non, si l'autre se tait, pardon, si l'autre se tait, eh ben, moi, qu'est-ce que je, quelle est ma meilleure action ? Ben, c'est D, d'accord ? Parce que soit je suis à 1, soit à 0. Donc, si l'autre me dénonce, j'ai intérêt de faire D. Et si l'autre me dénonce, j'ai intérêt de faire aussi D. D'accord ? Puisque je passe de 3 à 2. D'accord ? Donc dans tous les cas, j'ai intérêt de jouer D. Et donc, le prisonnier qui est malin, il dit, je vais jouer D, puisque c'est ma meilleure option. L'autre fait pareil, bien sûr, puisqu'il est aussi malin que moi. Ils se retrouvent tous les deux à faire 2 ans de prison, alors que s'ils avaient été collaborés, ils auraient été à 1 an chacun. Et donc, c'est-à-dire que la solution optimale pour chacun des joueurs, c'est celle-là. Alors qu'il existe une solution qui est là, mais qu'ils ne peuvent pas prendre, parce qu'elle n'est pas favorable pour eux, pour chacun individuellement. C'est ça le dilemme du prisonnier. OK. Donc ça, en statique, si on joue au prisonnier qu'une fois, la solution du jeu, c'est D. Et le coût, c'est 2 pour chacun. Et maintenant, on va essayer de voir ce qui se passe si je répète le jeu plusieurs fois. Et dans ce cas-là, vous allez voir que ça change tout. Ça change tout. Le répéter plusieurs fois, ça change. Comme tout à l'heure aux échecs. Ce que je vais faire, donc, c'est que je vais répéter le jeu une infinité de fois. Et donc, j'ai écrit comme tout à l'heure, hein, donc mon gain, c'est le gain infini. Donc, U, alors U, c'est le coût, là. Indice I, c'est pour le joueur numéro I. Enfin, cette fois-ci, il dépend de la politique du premier joueur, de la politique du deuxième joueur. Je fais la somme jusqu'à l'infini. J'actualise par lambda, comme tout à l'heure. Et je dis que ça, c'est le coût pour le joueur numéro I sous les stratégies pi 1, pi 2. Donc c'est la même définition que tout à l'heure, sauf qu'il y a 2 stratégies, je vais en avoir qu'une. Ah, c'est un facteur de normalisation pour que si le U vaut 1, le V vaille 1. C'est juste un facteur de normalisation. Il sert juste à normaliser les coûts pour que les coûts aient un sens. Vous voyez que ce soit la même que si je paye 1 à chaque coup, que finalement mon gain soit 1. D'accord, c'est juste une normalisation. Donc évidemment, hein, la stratégie qui consiste à jouer D tout le temps, pour chacun des joueurs, est aussi un équilibre, une solution, un équilibre du jeu. Mais, contrairement à tout à l'heure, ce n'est pas la seule. Et en voilà une autre stratégie qui est aussi un équilibre. C'est la suivante, celle que j'écris en bleu ici. Donc voilà ce que je vais faire. Je joue C, donc je me tais tout le temps, jusqu'à ce que l'adversaire joue D. Donc tant que lui joue C, je joue C. Il joue C, je joue C, il joue C, je joue C, il joue C, je joue C. Il se met à jouer D un coup. Alors, je suis très rancunier. S'il joue D un coup à l'étape N, moi je joue D entre l'étape N plus 1, N plus 2, tout le temps jusqu'à la fin des temps. S'il me trahit une fois, j'ai plus confiance, je le trahis jusqu'à la fin des temps. Cette stratégie-là est aussi un équilibre de Nash pour le jeu répété. Donc on va le montrer. C'est assez simple à montrer. Alors, supposons que mon adversaire joue cette stratégie-là. Quelle est ma stratégie à moi, meilleure, la meilleure possible ? Je suppose que lui fait ça, et je vais calculer ma meilleure stratégie à moi. Si ma meilleure stratégie à moi est la même, ça veut dire que c'est un équilibre. Si c'est une autre, ce n'est pas un équilibre. Allons-y. Donc supposons que moi, je joue... La première fois que je joue D, c'est une certaine étape que j'appelle N. Donc j'ai une stratégie, et je regarde la première fois où je joue D. D'accord ? Quel va être mon coup dans ce cas-là ? Alors, mon coup, ça va être... quand la première fois que je joue D, c'est à l'étape N. Jusqu'à l'étape n-1, mon coût c'est 1. Donc je gagne 1, mon coût c'est 1 jusqu'à l'étape n-1. Ensuite, à l'étape n, mon coût c'est 0, parce que là j'ai trahi, mais donc j'ai eu 0. Mais après, entre l'étape n plus 1 et plus l'infini, mon coût c'est 2. D'accord ? Parce qu'il va tout le temps jouer D, et donc là, quand l'adversaire joue D, le mieux que je puisse faire pour moi c'est 2. Même si je joue C ou D, je paierai ou 3 ou 2 selon ce que je fais, mais je paierai au moins 2. Donc mon coût, il est au moins celui-là. Donc, si je fais cette somme, hein, je calcule, ça me fait ça. En revanche, si au lieu d'avoir joué D une fois, je joue tout le temps C, mon gain, c'est eh bien, c'est 1 tout le temps. Mon gain, c'est 1. Si je joue tout le temps C, je joue jamais D, en réponse à ça, si moi je joue tout le temps C, il jouera aussi tout le temps C, et donc je vais payer 1 à chaque étape. Et donc mon coût global, comme j'ai multiplié par 1 moins lambda, ça va être 1. Et donc vous voyez que si lambda est assez grand, donc j'ai besoin de prendre lambda plus grand que 1,5 pour que cette quantité-là soit plus grande que 1. Et donc si lambda est plus grand que 1,5, j'ai intérêt à jouer C tout le temps. Et donc, si je joue la même stratégie que lui, je suis gagnant. Cette stratégie-là est donc aussi un équilibre du jeu. Et son coût total est 1. Et donc, elle est optimale. Elle atteint l'optimum possible. Donc, l'optimum possible, qui est 1, est atteint pour le jeu répété, alors qu'il n'est pas atteint pour le jeu statique. Donc répéter les choses plusieurs fois, ça sert. Ça permet de mettre en place des stratégies. Alors, ces stratégies-là, elles sont un peu œil pour œil. Ça veut dire que c'est une chose qui est impossible à faire en statique, parce que je ne joue qu'une fois. Mais quand je répète le jeu plusieurs fois, je peux faire ces stratégies œil pour œil. Et donc ces stratégies-là, elles ont l'avantage de forcer la collaboration entre les joueurs, s'ils sont malins. Et donc du coup, elle permet d'obtenir un équilibre de Nash qui vaut l'optimum social, c'est-à-dire qu'elle optimise la somme des gains pour chaque joueur. Et un théorème qui s'appelle le Folk théorème, je l'ai écrit en titre. Pourquoi Folk? Ça veut dire un peu universel, si vous voulez. Un théorème, comment on pourrait traduire ça en français? Une espèce de loi, si vous voulez, une loi générale. Une loi générale des jeux qui dit que eh bien, pour ces jeux répétés, il existe toujours un équilibre de Nash qui va atteindre l'optimum social, dès que le lambda est assez grand. Donc ici, c'était 1,5. Mais pour n'importe quel jeu, il existe un lambda strictement plus petit que 1 pour lequel cette chose-là existe. C'était mon dernier slide.